Nous sommes dans une série qui s'appelle Sans filtre. En Christ, nous sommes libres d'en parler. Et ce matin, j'ai fait exprès cela parce qu'il y a certains sujets, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ça revient aux parents de parler avec leur enfant. D'accord? Et avec la Bible, évidemment. Et moi, je n'ai pas aucun souci de parler aux enfants, mais je préfère qu'ils soient commencés dans la maison avec les parents. Et il y a des choses... Ah non, avant de continuer. Donc, sans filtre, ça veut dire qu'on est libre de dire ce que la parole de Dieu dit, de parler des choses compliquées que parfois on ne dit pas dans l'Église. On a une phrase qu'on aime le lire avant de commencer. Il dit, la liberté que j'ai en Christ me permet d'être vulnérable sans être jugé ni condamné. L'Esprit de Dieu m'encourage à vivre sans filtre et à lui être redevable dans ma vie quotidienne sous sa grâce et avec le but d'honorer Dieu. Le verset biblique qui vient avec, c'est « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux cieux de celui à qui nous devons rendre compte. » Donc il y a des sujets comme aujourd'hui on va parler, et le titre de ce matin s'appelle « Je lui appartiens ».« Je lui appartiens ». Et le verset biblique qui vient avec, c'est en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » S'il y a quelque chose que et l'apôtre Paul va commencer à dire ce matin, c'est qu'il y a quelque chose de spécial qu'il voulait dire à ses auditeurs, à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe avait certains soucis et certains théologiens et écrivains appellent l'église de Corinthe comme une église immature. Une église qui avait besoin d'être secouée à cause de ce qui s'est passé autour d'elle. Et là, il va parler de la relation sexuelle, il va parler de la relation homme et femme, mais aussi, comme c'était dit tout à l'heure, de la relation homme générique, homme-femme et Dieu. Alors, ici, nous trouvons qu'il y a une relation d'appartenance. J'appartiens à Dieu. Mon corps appartient à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a été racheté à un grand prix. Et comme on a été racheté à un grand prix, notre vie entière, corps et âme, corps et esprit, appartient à Dieu. Et ma vie, mon corps, devient le temple du Saint-Esprit. Avant, le temple de Dieu était un bâtiment, une tente. Maintenant, c'est notre corps. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous de façon continuelle et sans partir. C'est la Bible le dit. Et alors, pourquoi tout ça? Parce qu'il y a des choses qui vont affecter ce temple. Même si j'appartiens à Dieu, il y a des choses qui vont affecter. La semaine avant-dernière, nous avons parlé des idoles et tout ce que cela engendre dans notre vie. Et comment un idole, c'est quelque chose ou quelqu'un qui prend toute la place que Dieu et la place de Dieu dans notre vie. Il y a une chose qu'on a vue, ça fait 2 semaines, et si vous avez lu l'Ancien Testament, et on parle des 10 commandements. Et les 10 commandements commencent simplement pour dire... En Exode chapitre 20, verset 3 à 5 dit, la première chose qu'il dit, tu n'auras à notre Dieu que moi, dit l'Éternel. Donc je ne peux pas avoir un autre Dieu ou un idole, que ce n'est pas Dieu, autre que Dieu. Donc si je lui appartiens, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir un autre, simplement Dieu. Alors il y a... Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Donc, il y a des différents idoles et dieux dans ce monde, de ce matin et aujourd'hui, qui vont vouloir arracher la place de Dieu de notre vie. Je vais mentionner 4, je vais parler plus long et de plus d'un seul, mais je vais aussi mentionner les autres. La pornographie et le tabagisme, ça s'appelle comme ça, et les drogues qui vont avec, l'alcool et l'argent. D'accord? 3 d'entre eux, ils sont, la Bible ne parle pas, ils sont en dehors du corps. L'argent, la drogue et l'alcoolisme. Mais ce qui parle de la pornographie, la relation sexuelle, il va toucher le corps et l'âme. On va aller encore plus loin. On va expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc, ils sont des choses que, malheureusement, on ne parle pas souvent dans les églises. Vous savez pourquoi on a, au lieu de mettre des choses tabous, on met sans filtre. Parce que pour Dieu, ce n'est pas tabou. Il n'y a rien de tabou. Tout est à nu devant lui. Alors, qu'est-ce que la pornographie? La pornographie, le mot pornographie est devenu un mot dans les années des Lumières, ici en Europe. Ce n'était pas un mot qui s'était inventé par l'apôtre Paul. C'est autre chose. D'accord? C'était peut-être plus tard. Et pornographie, en fait, ça veut dire qu'ils sont mis en image les prostituées. Si vous cherchez le mot dans le dictionnaire, Larousse, ça veut dire ça. Mettre de façon graphique des scènes obscènes, mais qui parlaient plutôt des gens prostitués. Hommes et femmes. Si vous voulez lire l'Ancien Testament, je vous invite à compter combien de fois l'Éternel, Dieu, parle ou appelle Israël en prostituée. Vous allez être étonné. Étonné. On va arriver. La pornographie dégrade la vue de la femme et de l'homme créée à l'image de Dieu. Dégrade la vue de la relation sexuelle comme une simple action sans conséquence. Même quand la parole de Dieu dit que cette action va contre son propre corps. Je l'ai dit tout à l'heure, verset 16, quelques versets avant, en Corinthiens. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il était, les deux deviendront une seule chair, et ça c'est en Genèse. Mais celui qui s'attache au Seigneur est une. Lui et un seul esprit avec lui. Fuyez l'impudicité ou la fornication, quelque autre péché qu'un homme ou une femme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il y a une union qui arrive quand je passe à cette relation sexuelle, c'est l'acte sexuel en dehors du mariage ou extramarital. Tout ce qui n'est pas dans le cadre biblique est condamné par Dieu. Et je ne peux pas me délier. Mentalement, je peux le faire, mais spirituellement, il y a un lien qui se crée. Alors, la pornographie, c'est des images simplement qui vont vouloir tordre la beauté de ce que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que, je ne veux pas m'entrer dans le détail, parce que je pense que la plupart d'entre nous connaissent de quoi je parle. Mais il va tordre l'image de quelque chose de beau que Dieu a créé depuis le début. Tu me fais compagnie. C'est bien. Et donc, si Dieu a créé quelque chose des beaux, Satan, jour après jour, va vouloir chercher le détruire. Pourquoi? Parce qu'il est énervé contre Dieu. Et toute la beauté que Dieu a créée veut la détourner. Pourquoi? Il peut dire, tu sais, t'inquiète pas, tu peux faire tout cela, tu peux regarder sur Internet. Et on va parler tout à l'heure de la masturbation. Tu vas faire tout cela et Dieu va te pardonner, t'inquiète pas. Je vous avais dit deux semaines auparavant que c'était mon témoignage à moi. Et je suis tombé dans ce monde-là. Et c'était terrible. Pourquoi? Parce que dans la tête, Dieu pardonne. Oui, Dieu pardonne. Mais c'est une idole. C'est une idole. Pourquoi? Parce que quand on parle d'idole, on parle d'une auto-gratification, si on peut le dire comme ça. Tu fais quelque chose, ça me donne, ça crée quelque chose sur moi. Et, ouais, oui, c'était bien, mais après, il y a un moment de culpabilité. Il y a quelque chose que je sais que ce n'était pas bien. Mais c'est temporaire. Quand Dieu a donné à l'homme et à la femme quelque chose de précieux, de beau pour l'homme et la femme, Et c'est quelque chose qui m'a tilté tout à l'heure avant que vous arriviez, c'est que la relation sexuelle, c'est toujours pour les deux. C'est jamais pour un seul. Il faut toujours donner. C'est jamais pour un seul. La masturbation, c'est autre chose, complètement inverse. Certains médecins disent non, il faut pour relâcher le stress. Faux. Selon Dieu, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est là, c'est pas pour relâcher le stress. C'est pour se auto-gratifier. C'est pour sortir la tête en dehors de la problématique de laquelle je vis. Mais jamais se confronter à son propre péché. La pornographie va développer un sentiment de plaisir que les gens vont vouloir répéter sans cesse pour calmer leur vide. Mais ils creusent leur propre trou. Car quand une femme ou un homme viendra pour avoir une relation sérieuse dans les pensées, ce sera une lutte parce qu'au lieu d'être une personne, ça va être un objet. Et la parole de Dieu, il y a une valeur que Dieu met, on s'est dit tout à l'heure. Dieu met une valeur à la personne, à l'homme et à la femme. C'est bien, on critique beaucoup les hommes qui problème de masturbation ou de pornographie, il y a aussi une certaine quantité de femmes qui le font. On est tous touchés, l'humanité entière est touchée par cela. Et on n'est pas à l'abri de tout cela. Mais Dieu nous a donné son abri, on va le dire tout à l'heure. Comment y arriver à échapper de tout cela? La pornographie va pousser les gens à la masturbation, encore à la autogratification, et selon eux, nécessaire pour vivre. Pour vivre. Écoutez ce que la parole de Dieu dit, pas ce que je dis. Matthieu 5. Vous savez à qui qu'il a été dit, tu ne commettras point de adultère. On trouve où cela? Dans les 10 commandements. Exode, chapitre 20. Je crois que c'est le 6e ou le 7e commandement. Vous savez à qui? C'est Jésus qui parle. C'était dit, tu ne commettras point d'adultère. Verset suivant. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis une adultère avec elle dans son cœur. Donc Jésus va aller plus loin, il va chambouler la loi, la compréhension de la loi. Parce que ce n'est pas simplement, je t'ai trouvé, maintenant tu vas subir la conséquence. Maintenant, il met la responsabilité dans chaque personne. Parce que si on marche dans la rue, mes amis, est-ce qu'on peut voir les pensées des autres? Non. Est-ce que Dieu les voit? Bien sûr. Alors, imaginez-vous simplement, si on marche dans la rue et on commence à voir des panneaux sur la tête qui disent « Voici un adultère. » Voilà le silence qui s'est créé dans la salle. Ça serait quoi? Ça c'est génial, non, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut cacher le plus possible. Rien n'est caché devant lui, tout est à nu. Dieu voit nos cœurs, Dieu voit nos cieux, Dieu voit nos pensées. C'est pourquoi Jésus a dit ça. Pour aller encore plus loin que simplement des paroles. Pour nous dire, la sainteté au vivre à part pour Dieu, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jour je viens et un jour je fais une autre chose. Et Satan va vouloir nous dire, t'inquiète pas. C'est pas grave. Mais il dit, si c'est grave. Parce que tu m'appartiens, Joël. Tu m'appartiens. Vous m'appartenez. Et parce que vous m'appartenez, nous devons vivre comme Dieu veut qu'on vive. Alors Dieu est un Dieu de grâce, oui, bien sûr. Tous les jours. Et ces miséricordes se multiplient tous les jours. C'est pourquoi on est là ce matin. Parce qu'il nous a fait grâce de nous donner une nouvelle journée de vie, pour vivre. Toute idole va nous voler la possibilité de laisser notre volonté à la disposition de Christ. Ce qui veut cette idole de la pornographie, de la masturbation, relation sexuelle en dehors du mariage va nous voler la liberté que cela amène en Christ. En Christ. Toute idole. Le livre de Jacques dit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'il a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous en trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend de haut du Père des Lumières, de lequel il n'y a de changement ni ombre de variation. Je ne peux pas dire Dieu est en train de me tenter à faire cela. Parce que Dieu ne tente pas. Il libère. Il libère. On a écouté le témoignage de Sabina quelques semaines auparavant. Il a dit clairement, dans les moments où j'ai commencé à laisser Dieu agir dans ma vie, il m'a libéré. Alors, quand j'ai commencé à laisser Dieu me dire combien il m'aimait, il m'a libéré de ces choses-là. Il m'a libéré. Et ça, ça veut dire que je suis plus tenté? Ben non. Ça veut dire que j'ai les armes aujourd'hui pour mieux combattre. Pourquoi? Parce que Satan me connaît bien. Il va aller dans le point où je suis le plus vulnérable pour me tenter. Et chaque fois que je viens, que cela passe, j'ai deux choix. De dire, va-t'en d'ici, parce que je suis déjà... En Christ, je suis libre. Je suis plus esclave de ces choses-là. Ou simplement dire, oui, pourquoi pas. Ce n'est pas une fois. Dieu, de toute façon, me pardonne. Je suis responsable de ma vie spirituelle en Christ. Je ne sais pas où vous êtes avec cela, homme ou femme. Mais c'est quelque chose qu'on doit veiller tous les jours de notre vie. Parce que Dieu nous a donné deux cieux. Et tout cela rentre ici. Et pour sortir des choses d'ici, ça peut passer beaucoup de temps. Et les seuls qui peuvent passer ça, c'est Dieu. Pour transformer notre vie. Alors, il y a aussi... On parlait du tabagisme, de l'alcoolisme et de l'argent. Et ce sont aussi des choses qui vont nous tenter à les adorer. L'alcoolisme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend, cherchez dans Proverbe, vous savez trouver en Proverbe, et si en Proverbe, qu'est-ce que fait l'alcool dans la vie? Et c'est en Proverbe qu'il y a aussi un bon passage où il parle de qu'est-ce que fait l'alcool dans notre vie. Il ne faut pas le regarder parce qu'il va nous mordre. Attention, écoutez bien ce que je veux dire. La Bible ne dit pas, on ne peut pas avoir, on ne peut pas fumer, on ne peut pas avoir de l'argent. La Bible ne le dit pas. Mais la Bible donne des principes. Et le principe, c'est quoi? C'est quelque chose qui va me guider à quoi? À vivre selon ce que Dieu, comment Dieu veut que je vive. Alors, quel est le premier principe? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ceux qui font de l'alcool, ils gagnent de l'argent parce qu'on l'achète. Mais ils s'en fichent de ce qui se passe avec les personnes. Exactement ce qui se passe avec les gens qui achètent des cigarettes. Et en plus, sur les boîtes. Les cigarettes, c'est marqué quoi? Fumer? Donc, L'idole nous prend, je vais être encore plus en ça avec vous, l'idole des drogues nous prend pour des gens stupides. Pardon. Parce qu'on voit, c'est marqué, fumes-tu? Et on le fait. Abuser de l'alcool. Écoutez bien ce que je dis, abuser de l'alcool. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Je perds le contrôle de moi. La deuxième cause de mort sur la route en France, c'est l'alcool. La première, c'est la vitesse. La deuxième, c'est l'alcool. L'alcool, le tabac font de ravages. En parlant de l'argent, avant de l'argent, c'est marqué quoi? Verset et encore un tiers 10 et pardon et 6 19 je pense c'est 10 23 non c'est 6 et 6 12 j'ai pas mis le code, je veux le lire simplement rapidement. Dit ceci: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Dans une autre version, dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, et je ne me laisserai asservir ou être placé sous le pouvoir de qui que ce soit. Mais vous voyez, c'est marqué je. Alors non, mais c'est orgueilleux, Joël. Comment je? Qui suis-je pour faire tout cela? La Bible a dit que je peux rien faire sans Christ. Mais en Christ, je peux dire je. Parce que c'est qui vit en moi? Paul dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc quand je dis je peux dire en Christ, je peux dire tout cela. Et tout à l'heure, on va voir comment il y a cela. Et vous allez voir qu'il y a trois je en Christ, en sa parole, dans sa parole. L'argent. Dit quoi la parole de Dieu? En Matthieu 6, et c'est encore Jésus qui parle, et dit quoi? 6, 21 à 24, dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, non, c'est pas le mauvais, voilà, c'est pas le bon. Car où, et 6, 19, pardon, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si l'œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton cœur sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman ou les richesses. Vous ne pouvez servir. Et c'est Jésus qui le dit. Ce sont les paroles de Jésus lui-même. Donc si Jésus lui-même dit, il y a un idole, maman, c'est un nom en sémitique. On a araméen, je crois que c'est araméen, et ça veut dire richesse. Je ne peux pas servir Dieu et richesse. Parce que je peux être et à la fin de moi très, et, comment je peux dire, affligé. Parce que j'ai aussi son rouge. Et ça va me voler ma paix en Christ. Je pense qu'on a tous passé déjà pour un moment comme ça. Et au lieu de que je puisse dormir en paix, je ne peux pas dormir. Pourquoi? Parce que je suis extrêmement préoccupé pour qu'est-ce qui va se passer demain. Est-ce que la banque va m'appeler? Est-ce qu'on va pouvoir payer tout ce qu'il faut payer? Est-ce que Dieu n'existe pas en ce moment-là? Donc je suis en train de m'agenouiller devant ce Dieu de l'argent et dire, comment est-ce que je peux faire pour gagner plus d'argent? Travaille plus? Non. C'est pas mauvais de travailler plus, hein. Mais c'est pas la solution. La solution, c'est de dépendre complètement de Christ. Paul a dit, j'ai appris, et écoutez bien ce que je veux dire, parce que parfois on utilise ce passage d'une façon mauvaise. Paul a dit, j'ai appris comment vivre dans le besoin et sans le besoin. J'ai appris. Je suis plus en Christ qui me fortifie. Il parle de ce moment-là de problème économique. Je peux tout en Christ qui me fortifie. Je ne dois pas être angoissé par l'argent. Je suis reconnaissant de ce que j'ai. Et savoir que Christ me donne la capacité de pouvoir gérer ce qu'il nous a donné. Je lui appartiens, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu de votre corps et de votre esprit qui appartient à Dieu. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est ça, mais c'est un juif. François était là, je pense qu'il les a vus à côté des murs de Lamentation, ça s'appelle comme ça. Et les juifs, et selon Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 8, ils ont reçu ce cela, ils l'ont fait un peu plus, ils l'ont fait un peu plus et graphique. La Bible dit en Deutéronome qu'ils doivent garder la parole de Dieu dans leur front et dans leur bras. Pourquoi dans le bras gauche? Parce que c'est plus près du cœur. C'est pourquoi ils le font. Et c'est une phylactérie, s'appelle. Tout cela s'appelle le téphilim. D'accord? C'est une phylactérie qui se met jusque-là. Il garde le doigt aussi là pour qu'il soit plus près du cœur. Et il s'est mis des petites boîtes là, dans le bras et ici, là-haut. Pour dire ils sont toujours près du cœur et près de la tête pour nous aider à connaître Dieu. Et le premier verset, parce que l'intérieur, il y a des versets, quatre versets. Le premier verset, Dieu est un seul Dieu. Je n'ai pas un autre. Des gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur sauveur. Ils sont ce premier verset de la Torah, de l'Ancien Testament, de les cinq premiers livres de la Bible. Dieu est un seul Dieu. Pour eux, c'est quelque chose de graphique. Nous, on n'a pas besoin de ça, on a la parole de Dieu. Et combien de fois on a besoin de ça pour nous rappeler? Quelque chose d'issuel. Nous avons la parole de Dieu entre nos mains pour nous encourager à la mettre en pratique. Et si bien nous pouvons parler spécifiquement de chaque péché, il y a des principes généraux, merci. À tenir en compte pour notre vie, pour nous faire comprendre que nous lui appartenons. Alors, quels sont ces principes? Je crois que vous connaissez quelques versets. Et vous voyez, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Psaume 119, 11 dit quoi? Je sers, encore une fois, c'est quoi? C'est Dieu. Je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne quoi? De ne pas pécher contre toi. Et serrer, c'est pas simplement faire un câlin. Serrer, c'était je prends tellement fort quelque chose que je ne lui laisse pas partir. C'est ça, serrer. Je serre ta parole dans mon cœur afin. C'est le pourquoi je fais cela, afin de ne pas pécher contre toi. Alors, combien je suis en train de serrer sa parole dans mon cœur. Le psaume 119, 105 dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. Quelqu'un a dit, je crois que c'était ma femme qui dit, une lumière sur mon chantier. Si parfois notre vie c'est un chantier. Il y en a besoin de sa lumière. Ta parole est une lampe. Et si c'est une lampe, je veux serrer sa parole pour qu'il me guide dans mon chemin. Je serre ta parole dans mon cœur. Deuxième principe, Psaume 119 encore, 30. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes cieux. Encore une fois, c'est le jeu. Et pourquoi c'est le jeu? Parce que Dieu a fait la chose la plus difficile pour nous. C'est de le sauver. nous, on ne pouvait pas s'auto-sauver. Parce que le péché était tellement grand que c'est une, il y avait un falaise entre Dieu et nous. Et Dieu, et il nous a aimé de telle façon qu'il a créé ce pont à travers la croix. Il est venu nous chercher. Et maintenant qu'il nous cherchait, on a déjà passé de l'autre côté, il nous demande, il faut que tu vives une vie en sainteté. Je choisis la voie de la liberté, de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te retourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si je veux réussir, il faut faire quelque chose. Il faut mettre jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce que tu es écrit. Je choisis la voie de liberté, je place tes lois sous mes cieux. Avant d'arriver au troisième, quelle est votre réalité? Est-ce qu'on sert la parole de Dieu dans notre cœur? Est-ce que la chérie? Est-ce que la prend comme quelque chose d'essentiel dans notre vie? On chante. Je chante avec Dieu mon essentiel. Je chante en l'honneur de son nom. Parfois, il ne faut pas chanter. Parce que si Dieu n'est pas notre essentiel, il ne faut même pas chanter. Parce que si je sais pas la parole de Dieu, je peux faire un fake, comme on dit quelqu'un. Mais devant Dieu, je ne peux pas être un fake. Devant Dieu, tout tombe par terre. Pourquoi? Parce que Dieu me voit tel que je suis. Je sers ta parole dans mon cœur. Je choisis la voie de la liberté. Je place tes lois sous mes yeux. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Vous voyez, je garderai. Et vous voyez, c'est tout dans les psaumes 119. Il y a 150 versets, mes amis, sur les psaumes 119. Cette semaine, faites un compte combien de versets vous pouvez lire. Vous allez voir chaque fois que la loi de l'Éternel, les préceptes de l'Éternel, tout cela, on parle de la même chose, de cela. Combien il nous garde. Et combien, si je garde la loi constamment, je vais être libéré à perpétuité. Le verset 45 dit, je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Dans une autre version dit, la version Sommer dit, alors je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. C'est super! Vivre dans la liberté. Et ne pas vivre en pensant, non, je suis encore dans ce péché. Non, je suis libre de ça. Mais Satan va encore l'enchaîner. Vous savez qu'est-ce que c'est super? C'est que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Ce n'est pas notre œuvre. Écoutez bien, c'est pas combien de versets bibliques je peux lire, c'est pas combien de prières je peux prier, c'est pas si je prie à genoux ou debout, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait dans la vie. Combien de dispositions je laisse l'Esprit de Dieu travailler dans moi. C'est pourquoi, mes amis, parce que je peux pas agir avec mes forces, mais j'agis selon la puissance de celui qui agit puissamment en moi. Colossiens 1, 28 et 29. Le seul oiseau qui ose picorer l'aigle, c'est le corbeau. Le seul. Mais vous savez quoi? Le corbeau s'assit sur le dos de l'aigle, il mord le cou de l'aigle. Mais vous savez, cependant, l'aigle ne riposte pas ne se bat pas avec le robot. Il ne dépense ni temps ni énergie sur son attaquant. Il déploie simplement ses ailes. Il commence à s'élever de plus en plus haut jusqu'au moment que le corbeau s'étouffe et tombe. Mes amis, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancèlent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent le vol, comme quoi? Comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mes amis, quelle est la problématique que vous avez aujourd'hui? Quel est le péché qui vous fatigue, qui est derrière votre cou, qui vous mord? Simplement en regardant la création de l'Éternel, on apprend. L'aigle ne fait rien d'autre que quoi? Qui monte. Et comment on monte? Après la parole de Dieu. La Bible dit, pour terminer, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et quoi? Si le diable est dans votre cou, montez. Montez. Mais la première chose qu'il nous demande, c'est quoi? C'est de soumettre. C'est pas facile? Non. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que les péchés parfois sont très ancrés dans notre vie. Et Dieu nous dit, viens vers moi, vole haut, parce que tu m'appartiens. Et je te donne les solutions ici, ici, des principes pour vivre ici. Pas simplement des principes psychologiques, des principes de vie qui changent la vie. Mes amis, c'est à vous de voir où vous êtes aujourd'hui. C'est à vous de voir dans votre vie. On lui appartient. Si vous connaissez Christ comme sauveur, vous appartenez à Christ. Mais si vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous n'appartenez pas à Christ. Vous appartenez à quelqu'un d'autre. La Bible dit, ton père est le diable. Et je simplement prends les mots de la Bible, pas mes mots à moi. Et Dieu veut racheter notre vie pour qu'on lui appartienne. Mais quand on lui appartient, ça veut dire que je prends une responsabilité. Ces cadeaux éternels que Dieu m'a donné, Dieu veut que je l'utilise avec responsabilité, avec conscience que celui qui m'a donné cela veut beaucoup plus de moi que simplement une vie linéaire. Il veut une vie en montant vers le haut. Je vous invite à prier.